Je suis Charlotte Casiraghi et avec la Maison Chanel, je vous présente le podcast Les Rencontres. En marge des rendez-vous littéraires rue Cambon, ce podcast met en lumière l'acte de naissance d'une écrivaine. Vous pouvez écouter ces épisodes et leurs autrices sur vos plateformes préférées.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cinociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a jamais trop aimé finalement l'obligation qu'il est souvent faite aux amateurs de production culturelle d'organiser celle-ci entre ce qui relève du bon et du mauvais goût, cette vieille tendance à décréter qu'il existe des plaisirs nobles et d'autres coupables, des passages obligés et d'autres dispensables, voire méprisables. Non pas qu'il faille dire que tout se vaut, ce serait un peu hypocrite, mais une certaine fatigue peut s'installer face au temps infini perdu à se justifier, à démultiplier les arguments pour défendre ses choix. Par exemple, tenter d'expliquer la joie tout sauf ironique qu'on a en écoutant certains types de Mötley Crüe, tient parfois du parcours du combattant. C'est donc débarrassé de ces jugements finalement très vains que nous allons ici discourir de The Dirt, le biopic consacré à Mötley Crüe. Tiens, justement. Avec un trio aussi échevelé qu'électrique, Lélo Jimmy Batista, salut Jimmy.
Salut Thomas.
Julie Le Baron, salut Julie.
Salut Thomas.
Et Perrine Quesson, salut Perrine.
Salut Thomas.
C'est nos ciné-épisodes 190 et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
The Dirt, c'est, précisons-le, un film Netflix disponible depuis quelques semaines déjà et qui donc nous narre les exploits et le démarrage de cette énigme pour la science qu'est Mötley Crüe, groupe au succès délirant dans les années 80 dont les percées dans les charts n'auront d'égal que les réguliers sommets d'alcoolisme et de toxicomanie que ses membres vont s'évertuer à franchir tout en copulant frénétiquement avec un maximum de partenaires contribuant à leur manière à forger ce pénible triptyque sexe, drogue et rock'n'roll que trimballent les musiques amplifiées comme un gros boulet ringard.
It could have happened to anybody, but it didn't. It happened to us.
The new band is going to be something nobody's ever seen before.
Oh my God, those are my pants.
But they look so much better on me.
We got a runaway, a kid drummer, an old man.
Let's just play it.
A cover band singer.
They say you're going to be a rock star.
What do you think?
Holy shit.
Et c'est donc une adaptation de la par ailleurs tout à fait formidable biographie signée par les membres du groupe qui s'appelle The Dirt aussi et qu'il vaut mieux lire en VO parce que la traduction française n'est pas géniale. Bref, cette version filmée, elle est réalisée par Jeff Tremaine qui est surtout connu pour son association à la bande de Jackass. Et au casting dans le rôle des quatre membres du groupe, Vince Neil, Nikki Sixx, Mick Mars et Tommy Lee, on trouve respectivement Daniel Weber, Douglas Booth, Ewan Rheon, le sinistre Ramsay Bolton de Game of Thrones évidemment, et le rappeur, oui j'ai appris qu'il était rappeur, Machine Gun Kelly. Votre avis sur ce The Dirt, chers amis? Bon, Julie, ton prénom ressemble un petit peu à celui de Julien, Julien Dupuis, donc c'est toi qui vas commencer.
Ouais. Hein,
voilà, on va perpétuer une certaine forme de tradition, quelque part. Même si, malheureusement, il y a eu une pétition, et effectivement, Julien est désormais libéré de ses obligations. Ton avis sur The Dirt, Julie?
Ben, moi, écoutez, j'ai pas beaucoup aimé ce film.
Ouais.
Mais déjà, bon, alors, le gros souci, et ce qui faisait que je m'approchais de ce film un peu avec des pincettes, c'est que j'ai pas une relation profonde, enfin, une affection profonde pour Mötley Crüe, et je pense que c'est assez nécessaire quand tu te farcis un biopic musical. Genre, tu te dis, si au moins il est mal réalisé, je pourrais me consoler avec des scènes de concert.
Quelques chansons.
Et la deuxième raison qui faisait que j'avais un peu peur, c'est que Jeff Tremaine, il est uniquement connu pour Jackass, et Jackass s'est jamais réellement démarqué par ses qualités de réalisation. Après, en soi, ça paraissait un choix assez logique, vu qu'il est quand même assez doué pour filmer des sommets de débilité. J'ai quand même un souvenir assez ému du début de Jackass 2, donc une fameuse scène de ralenti où ils se font courser par des taureaux. Donc voilà. L'autre,
ça c'était l'argument en faveur du film.
Voilà, qui fait que quand même on peut lui donner une petite chance. L'autre truc donc qui est un peu difficile, c'est que donc comme tu l'as dit, la biographie The Dirt, donc c'est considéré donc comme une des grandes biographies musicales. Ouais. Elle est très, comment dire, très dense, très drôle, très triste aussi. Et c'était vraiment un défi quand même d'adapter un tel truc, quoi. Et d'ailleurs, la production, enfin genre, ça, ils ont acquis les droits peut-être en 2006. Ça a attendu 12 ans pour, enfin, on a dû attendre 12 ans pour que Netflix en fasse l'acquisition.
Ouais, il a été coincé un peu dans l'enfer, l'enfer de la production, comme on dit.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je cherchais le terme. Ouais. Et alors, le truc, c'est que on retrouve dans le film The Dirt, qui est en soi pas désagréable à regarder parce qu'on n'a pas trop le temps de s'ennuyer. Comme dans l'autobiographie du groupe, la narration est alternée entre les différents personnages qui parle face caméra, etc. On a énormément de scènes d'orgie, donc sexe à gogo. Et ce que je trouve assez triste, en fait, c'est qu'on arrive à s'ennuyer un peu devant un film où on voit successivement Ozzy Osbourne donc sniffer des fourmis, lécher sa propre urine, donc des orgies. Et pourtant, on s'ennuie un peu, quoi. Enfin, genre, c'est vraiment très... J'ai trouvé ça vraiment très fade. Et donc, il y a ce... C'est un manque de substance, en fait, par rapport au livre, qui se limitait pas, en fait, uniquement à des scènes d'orgie, quoi. Il y avait aussi un côté, enfin, pour moi, une dimension assez triste et touchante, en fait, où, alors que, je répète, j'aime pas spécialement le groupe, où ils évoquent un peu leur début, les moments où ils sont carrément fauchés, où ils ont des galères de chambre, ils ont un frigo vide, et avec des anecdotes incroyables, genre un videur du quartier qui vient bouffer leur hot dog, ils sont trop gênés pour lui avouer que c'est tout ce qu'ils ont, quoi. Et ça, bah, en fait, j'ai pas du tout retrouvé dans le film. Les acteurs, au final, il y en a aucun qui est particulièrement bon, et pourtant j'aime bien Iwan Rheon, mais il y en a aucun qui a vraiment une chance de briller, quoi. Et tout ça serait pas trop gênant, à la limite, ce serait juste un biopic rock parmi d'autres, s'il y avait pas ce virage un peu sérieux qui est pris à un moment et qui, avec un enchaînement de scènes qui sont censées être émotionnelles, mais qui tombent à plat complètement, quoi. Voilà. Désolée pour
quel beau panorama, Périne.
Oui, non, je suis assez d'accord. Après, je pense que je suis un petit peu plus peut-être un petit peu plus enthousiaste sur le film, mais en même temps, enfin.
Parce que clairement, tu es plus enthousiaste pour le groupe, peut-être.
Peut-être un peu plus enthousiaste sur Motley Crue. C'est quelque chose que je vais sans gêne aucune, j'avoue avoir écouté pas mal dans mes années d'adolescente. Mais non, c'est vrai qu'il y a. En allant voir le film, c'est sur Netflix. Mais en le regardant, en démarrant, j'avais qu'une peur, c'était Bohemian Rhapsody. J'avais qu'une peur, je démarrais avec la boule au ventre, la boule bohémienne. J'avais vraiment peur. Et donc,
traumatisé plus d'un ce film.
Je crois que là-dessus, on sera tranquille toute notre vie. On a vu le pire, c'est fini.
Je suis pas sûre parce que ça a marché. Ils peuvent recommencer, les gars. Ils pensent à un 2. Enfin, arrêtez, quoi. Et donc, j'avais peur de ça. Et finalement, ce n'est pas ça non plus, quand même. Ouais. Rien que le montage est meilleur. Rien que le montage est meilleur. Donc rien que pour ça, je vais lui donner des petites golden stars. Genre, hey, c'est pas si mal. Mais alors après, je suis d'accord avec Julie, c'est qu'à un moment donné, en effet, il y a des séquences, parce que les séquences de vie, l'accident de voiture qui va causer la mort de Razzle, la mort d'un enfant, enfin, bien sûr, c'est des trucs absolument abominables. Et en effet, ils essayent. Mais comme tout le reste est un petit peu trop speed, un petit peu trop vas-y que je t'en mets plein les mirettes en changeant les points de vue en permanence, etc., en voulant être drôle et funky, bah résultat, le virage n'arrive pas du tout à se faire, et c'est vrai que c'est un petit peu douloureux. Mais finalement, il y a quelque chose qui est ressorti pour moi qui m'a plutôt un peu enchantée, où j'étais pas convaincue au départ. C'est que justement, au début, je me suis dit, allez, super, ça va être l'apologie justement du sexe, drogue et rock'n'roll, oui. Et oh mon Dieu, ce que c'est cool, et là, baiser sans capote, c'est super, et enfin voilà, sniffer des fourmis, c'est génial. Et donc,
on n'a pas essayé.
Non, visiblement, mais il avait l'air de trouver ça cool, Audi. Mais en tout cas, voilà, j'avais un petit peu peur de ce truc-là. Je me dis, bah, ça va être très, très terre à terre, très, très encéphalogramme plat, en fait, finalement, d'une certaine façon. Et en fait, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est cette espèce d'accumulation, justement. Parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'accumulation de ça. Et au bout d'un moment, je trouve qu'ils arrivent à quelque chose avec ça, c'est à nous en dégoûter. Et c'est là où, d'un seul coup, je me suis dit, j'avais peur de l'apologie. Et en même temps, je dis rien contre le sexe, drogue et rock'n'roll, hein, je trouve ça très sympa, hein, mais encore une fois, voilà, c'était comme tout, hein, avec modération peut-être, j'en sais rien. mais en tout cas, là, l'idée, c'est que comme c'est tout le temps comme ça, et ben, au bout d'un moment, même nous, il y a une forme d'écœurement. C'est-à-dire que même moi, j'étais écœurée. Donc au moment où le personnage de Douglas Booth, Nikki Sixx, est lui-même écœuré de son comportement, de son style de vie, ben, moi, j'étais arrivée à un point d'écœurement aussi. J'étais alors, oui, ben, c'est bon, ça va, vous allez baiser, puis c'est cool, et puis tu vas être bourré, puis tu vas péter la gueule à machin et tout. D'ailleurs, il y a cette séquence qui est pas si mal, où le personnage de comment il s'appelle, le batteur
Tommy Lee,
en subjectif, qui raconte sa journée en disant je me lève à 17h, et qui raconte son cycle, où là tu fais ouais, ok, là on a atteint un niveau de bonne loose quand même, c'est quand même tristoun. Et ça, je trouve que par exemple cette séquence-là, je la trouve plutôt maline en fait. C'est d'un seul coup de montrer peut-être cet extrême de oui, ça vous fait rêver, oui, c'est tentant, oui, c'est génial la vie de rock band, mais à un bout d'un moment, on se lasse de tout, même de ça. Même de ça, on arrive à trouver la limite. Et c'est là où je trouve que d'un seul coup, le film, pour moi, gagne un petit peu en noblesse d'une certaine façon, même s'il reste du temps. Pareil, je ne comprends pas tellement le choix des acteurs, pour être honnête. C'est-à-dire qu'on nous explique dès le début que Ewen Reon est censé être le plus âgé de la bande. Oui. Mais ils ont quasiment tous le même âge, les gars.
Moi, j'y crois pas
deux secondes. Donc, c'est-à-dire,
le truc, c'est que, comme disait Julie, la production était prévue depuis très très longtemps. Et pendant assez longtemps, c'était Johnny Knoxville qui devait faire Nikki Sixx.
Ah oui.
Et
ah
ouais. Le problème, c'est que ça a pris tellement de temps qu'ils ont tous vieilli et qu'ils ont dû prendre d'autres gens. Enfin, pas au dernier moment, mais sur les dernières années, quoi.
Mais ça, je comprends bien. Mais dans l'idée, pourquoi pas prendre dans ce cas des gens qui ont des âges différents eux-mêmes ? Parce que là, pour le coup, à part peut-être celui qui fait Tommy Lee, qui a vraiment l'air d'un gamin et qui, je trouve, qui est presque le personnage le plus touchant et le plus intéressant en fait du film finalement, Tommy Lee. Comme ils ont tous le même âge, j'arrivais pas du tout à sentir vraiment les incartades d'âge, les différences, etc. Donc ça m'a un petit peu sorti. Mais non, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même pas très grand. Ça veut en faire des caisses et ça se plante assez régulièrement. Mais voilà, justement, par l'accumulation, ils ont réussi à m'avoir peut-être à l'usure, mais ils ont fini par m'avoir sur ce peut-être ce qu'ils cherchaient à dire, même si je suis pas pour que, enfin, le groupe Halo à la fin, moi, ça me déprime, hein, enfin, complètement.
Bon, Jimmy, je pense pas que tu vas le défendre, ce film.
Pas vraiment, non, mais après, en plus, je suis assez d'accord avec ce qui a déjà été dit, quoi. Mais en plus, enfin, bon, voilà, je pense que, comme disait Julie, c'est aussi, voilà, comme tout dépend de ton passif aussi avec cette musique-là. Et
pour ce qui te concerne.
Moi, c'est un groupe que j'adorais jusqu'à 15 ans, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Après, ça s'est terminé d'un coup, comme ça. Non, enfin, j'aimais vraiment beaucoup de groupes là quand j'avais 13-14 ans, quoi. Après, j'ai continué quand même à écouter un petit peu, mais plus par habitude qu'autre chose. Mais c'est surtout que moi, j'ai beaucoup lu la bio de Dirt, que j'ai trouvé, enfin voilà, comme disait Julie, c'est un bouquin qui est considéré aujourd'hui comme une des meilleures bios qui existent, enfin en musique, et pour moi, je pense même que c'est même la meilleure, mais pour un truc tout simple, c'est qu'en fait, au-delà du fait qu'elle est hyper divertissante, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une grosse accumulation d'anecdotes toutes plus tarées les unes que les autres, et puis de drames et de trucs invraisemblables, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas dans le film, hein,
oui, bien sûr,
d'ailleurs, mais ça, ils s'en cachent pas du tout, c'est ça qui est plutôt bien.
Ah bah oui, voilà,
ils s'en cachent pas du tout,
et donc voilà. Mais au-delà de ça, il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que le bouquin, ce qui est bien, c'est que tu as aussi un truc un peu universel qui en ressort quand tu le lis, qui est en fait de montrer ce que c'est que des gamins qui viennent de milieux sociaux, familiaux vraiment craignos et qui sont prêts à tout faire pour y arriver, quoi. Ouais. Mais vraiment à faire n'importe quoi. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment bien dans le bouquin. Je sais que dans la musique, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout Motley Crue, qui ont adoré le bouquin pour cette raison-là, parce que c'est un bouquin qui parle à peu près à n'importe qui, peut parler à n'importe qui soit un groupe, soit à aimer la musique passionnément jusqu'à en faire son boulot et puis à perdre beaucoup d'argent mais c'est vraiment un truc assez viscéral, enfin qui est vraiment présent dans le truc,
quelque chose de très universel,
et puis en plus c'est un des derniers témoignages de ce genre dans la musique dans la musique rock, en tout cas puisqu'aujourd'hui si tu veux avoir un bouquin comme celui-là, il faut que tu ailles dans la télé-réalité, tu pourras plus le retrouver dans la musique, puisqu'aujourd'hui c'est pendant l'interview pirouettes ou je sais pas qui que tu vas le retrouver mais voilà, et en fait
ça avec un tel
à tel mépris et donc voilà, et en fait le truc c'est que bon, à l'époque où le bouquin est sorti, c'était en 2001, on n'adaptait pas encore les choses aussi vite qu'aujourd'hui, et donc il a fallu quelques années avant qu'on commence à en parler. Donc comme je disais, voilà, Jackass a été impliqué, enfin le milieu de Jackass a été impliqué très vite dans le projet. Après je connais pas un peu les différents épisodes du truc, mais ce qui était assez marrant, c'est que quand le truc a été un peu confirmé par Netflix et tout, Nikki Sixx a dit dans une interview qu'il voulait surtout pas que l'adaptation se résume uniquement à du sexe, de la drogue et des accidents de voiture. Et c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'il l'a complètement foiré, quoi. Et en fait, le truc, c'est que je trouve pas que... Enfin, même si on prend le film comme une suite d'anecdotes et de scènes un peu trash ou quoi, ça marche pas toujours. C'est-à-dire que, connaissant déjà l'histoire et ayant déjà vu beaucoup de choses dégueulasses, j'ai quand même eu un tout petit peu envie de gerber.
Ah ouais. Ah ouais.
Donc ça fonctionne bien. Par contre, je trouve qu'il y en a plein qui sont ratés. La caméra subjective, je la trouve pas si bien ça. Mais par contre, parce que j'ai la version du bouquin en tête et qu'elle est beaucoup mieux. Et je me suis dit, d'ailleurs, comment ils ont pu rater ça ? Enfin, c'était tout cuit, quoi. Et il y en a une encore pire, enfin, qui est nettement pire. C'est il y a une baston dans une salle de concert au tout début, qui dans le bouquin est incroyable. On a vraiment l'impression de lire un dessin animé. Et là, c'est un peu embarrassant. On a l'impression qu'il n'y a pas assez de décor. Il y a pas de. Enfin, voilà, quoi. Et après, il y a un petit pas. Il y a juste un truc, moi, que j'ai trouvé bien, finalement. Enfin, bien, est-ce que c'est bien ? J'en sais rien. Enfin, c'est pas totalement réussi, mais c'est un tout petit peu bien, on va dire. C'est que dans les biopics qui sont sortis ces dernières années, il y a beaucoup de. Comment dire ? De révisions.
Oui.
Bon, on a vu ça avec Bohemian Rhapsody. Pour moi, un des pires, c'est Straight Outta Compton sur NWA, où on a Dr. Dre qui a quand même tapé sa femme plusieurs fois et pas qu'elle. Et ça, c'est passé totalement à l'as. Bon, là, au moins, ils assument quand même une bonne partie de leur connerie. Quand même. Donc ça, là-dessus, je trouve que c'était plutôt pas mal de faire vraiment un truc qui soit le moins édulcoré possible,
oui,
même si
honnête,
voilà,
ouais.
Un soit peu honnête. Donc effectivement, bon, ils se mettent un peu dans la merde en faisant ça, et c'est plutôt bien vu. Mais après, sinon, c'est vrai que il y a tout le pathos, comme disait Perrine, qui colle pas du tout. Et en plus, et là, je pense qu'il y a peut-être eu Vince Neil a peut-être fait un truc à la Brian May, parce que je trouve que son personnage est beaucoup trop sympa.
Mais oui, beaucoup trop. je suis tout à fait d'accord. Je suis beaucoup trop sympa.
Et je crois que c'est la pire ordure du groupe, et c'est vraiment la victime. C'est limite une victime, en fait. Il tue son pote, et c'est une victime. En plus, sa fille elle est malade. Enfin, c'est horrible. On dirait que c'est vraiment le mec qui a tous les malheurs du monde sur le dos, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses vraiment dégueulasses de son côté. Bon, après, voilà, voilà, j'avais pas vu le côté que disait Perrine, qui est assez intéressant, justement, que ça te dégoûte du tout. Parce que moi, en fait, j'ai dû le voir en deux ou trois fois, le film, tellement il est pas long. C'est vrai qu'il y a une surenchère. Assez pénible. Et j'ai vu une critique aux États-Unis, alors je sais plus sur quel site ou quel magazine, mais qui disait que, en fait, on pouvait très bien juste écouter deux fois, vu que le film dure une heure et demie, on pouvait écouter deux fois Dr. Feelgood à la place, et qu'on en apprenait autant. Et je trouvais que c'était pas mal. Mais alors, la seule différence que je ferais, c'est que je recommanderais plutôt d'écouter Too Fast for Love, qui est le premier album, qui est le seul que j'écoute encore. Et parce qu'il est plus court et qu'on peut l'écouter presque trois fois. Voilà.
Parce que j'ai repensé à une scène. Comme c'est le réalisateur de Jackass, il y a une scène, je trouve, dans le film qui, pour le coup, je trouve, rend presque hommage à Jackass, en fait, où d'un seul coup, on se souvient de cette ascendance-là, ils sont dans la chambre d'hôtel et on voit Tommy Lee courir à moitié à poil et poursuivi par des flics. Mmh. Et je ne sais pas, mais cette scène-là faisait hyper Jackass dans ma tête.
Dans l'hôtel,
et en fait, les autres qui se cachent chez le manager pour prendre de la coke. Et en fait, cette scène-là, juste le plan où tu vois l'autre passer comme un débile avec les flics derrière et puis les deux autres qui sont en train de prendre de la coke et la gueule du manager à côté, et bien rien que ce plan, enfin ce petit plan de 10 secondes, j'ai dit, ça c'est drôle, ça c'est très très drôle. Juste de le voir passer, j'en ferai un gif, quoi. Je trouve ça super drôle. Et je me suis dit, là, mais en fait, par moment, mais c'est assez rare dans le film en réalité, parce qu'encore une fois, il y a cette idée d'accumulation. Et même si, contrairement encore une fois à Bohemian Rhapsody, on est aussi dans l'anecdote, mais c'est pas aussi relou, parce que comme on change des points de vue, c'est un petit peu moins relou. En fait, finalement, il y a parfois, de temps en temps, quelques idées de ciné, il y a quelques idées de plans où tu fais ah, ça c'était bien, ça c'était pas mal.
Ça, c'est la grosse différence avec Bohemian Rhapsody, c'est que c'est un film.
C'est un film, déjà. Puis il y a Douglas Booth aussi, c'est bien.
Julie.
Mais alors, moi, le truc qui me frappe, en fait, là, maintenant qu'on est en train d'en parler, c'est que les scènes me paraissent limite plus trash, maintenant que vous êtes en train de me les raconter, qu'au moment où je les ai vues. Et je sais pas par quel truchement ils ont réussi ça, mais enfin, moi, en gros, un des problèmes du film, je peux le résumer à une scène, en fait, c'est le moment où Tommy Lee s'apprête à aller à un rancard, et en fait, il se regarde dans un miroir, il tire la langue et il fait le signe des cornes du diable. Et j'ai l'impression que le film, c'est un peu ça. C'est qu'il veut trop montrer qu'il est trop trash, trop rock'n'roll, et du coup, il est devenu un peu trop conscient de lui-même, et donc. Oui. Les trucs les plus trashos qu'on voit, parce qu'on voit quand même, comme vous dites, quoi, des trucs dégueulasses, je sais pas, ça m'a absolument pas choqué. Et donc, j'ai l'impression que dans son besoin de me choquer, moi, ça marchait pas, et donc, j'ai pas eu cet effet d'écœurement, malheureusement. Mais voilà, quitte à passer pour une déviante, même la scène où Ozzy sniffe des fourmis, elle m'a.
Ah non, moi, c'est le léchage de pipi. De
l'autre. Oui, le léchage de pipi, ouais.
Mais de l'autre, le sien encore. Voilà. Ça passe, mais celui de l'autre, j'adore. Ah non! Ah, mais c'est dégueu! Ah, c'est
sale. On a trouvé la limite de peine.
Il y a aussi le plan. Celui-là, je me suis dit, alors celui-là, ils l'ont réfléchi pendant des mois pour faire chier tout le monde. Mais il est tellement outrancier. Pendant le truc de ce caméra subjective, il gerbe sur une stripteaseuse.
Ah oui,
je trouvais ça.
Ah ouais.
Waouh!
Ah oui, c'était smack my bitch up, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression
que c'est
smack my bitch up, quoi. J'ai genre,
très bien, très bien. Bon, ça donne quand même un petit peu envie, j'espère.
On verra
bien.
C'est une bonne distraction.
Oui, enfin, voilà, on sent.
Mais tu le regardes en buvant des bières, puis après, tu poses ta bière, tu fais non.
C'est ça, tu le laisses tourner en fond, tout ça. Mais après, à côté, il y a aussi quand même ces trucs un peu très. Enfin, les poncifs des biopics musicaux, où t'as le moment formation du groupe, on va trouver le nom. Oh, en quatre.
En deux fois,
c'est trouvé, ouais, voilà. La descente aux enfers, et puis la RIAB, machin, quoi.
Alors, par contre, un truc bizarre, c'est, je voulais me renseigner là-dessus avant de venir, et j'ai pas le temps, mais le choix musical est hyper pourri. Je sais pas qui a choisi les morceaux, ils ont pris les pires morceaux de tout leur répertoire. En tout cas, si vous aimez déjà pas Motley Crue, faut vraiment vous accrocher.
Les plus connus. En fait, si tu tapes Motley Crue sur Google, c'est les premiers qui sortent. Honnêtement, je me suis amusée à le faire, et c'était les premiers qui sortaient. C'était les mêmes morceaux.
Parce que il faut attendre un petit moment avant qu'il y ait des morceaux un peu emblématiques ou quoi. C'est vraiment
c'est
des
bizarre.
Trucs. Ouais, je sais pas, étrange.
C'est bizarre dans la mesure où les membres du groupe prenaient part à la production, quoi. Ils auraient peut-être pu dire sélectionner de meilleures chansons, quoi.
Ils ont peut-être très mauvais goût, les membres du groupe. C'est pas totalement.
D'ailleurs, le titre de fin, qui est un inédit chanté par le rappeur qui
joue Tommy Lee. Gun Kelly, voilà, ouais. Tout à fait, ouais. Qui était un bon exemple de mauvais goût,
exactement.
Entre autres. Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations dans l'univers de votre choix, parce que vous le savez, vous êtes parfaitement libre. Tiens, Jimmy.
Alors moi, pour rester un peu dans le même milieu, on va dire, j'ai pris The Decline of Western Civilization 2 de Penelope Spheeris. Alors Penelope Spheeris, c'est la réalisatrice de Wayne's World, et elle a commencé en fait dans le tout début des années 80, fin des années 70, en faisant un docu qui s'appelait Decline of Western Civilization, qui était sur la scène punk hardcore de Los Angeles, avec Black Flag, tous ces groupes-là, les Germs. Et en fait, ce qui était son docu, finalement, était assez proche de ce qu'a été The Dirt, c'est-à-dire que ça montrait une scène un peu bordélique, excessive et tout. Mais derrière, il y avait aussi des gens qui étaient paumés, qui étaient qui savaient pas trop où ils étaient dans la vie, et ben il y en a même un qui s'est suicidé Darby Crash. Ouais. Et voilà, il y avait un peu le même esprit. Et en fait, elle a continué ses docu, elle en a fait deux autres volumes à chaque fois avec 10 ans d'écart. Et donc le deuxième, il a été fait en 88, et c'est sur cette scène un peu glam metal, air metal de groupes un peu peroxydés. Donc Motley Crue fait un peu partie par extension, mais là elle s'est vraiment intéressée au groupe plus jeune, on va dire, qui était sur Los Angeles, qu'on trouvait sur le Sunset Strip à Los Angeles. Et en gros, elle montre justement tous ces mecs-là qui veulent essayer d'y arriver à tout prix et qui veulent vivre le lifestyle rock'n'roll, à baiser tout ce qui bouge et à se défoncer la gueule, et en fait qui veulent devenir riches et célèbres, et c'est un documentaire qui est déjà assez pathétique quand tu le regardes, quand tu le regardais un peu à l'époque, quand tu le regardes aujourd'hui avec il y a presque 30 ans, tu te dis, bon voilà, tous ces gens qui sont en train de parler, en train de raconter leur passion, leur ils ont abandonné parfois leur famille et tout, et ils sont en train de se défoncer, de faire des trucs pas possibles, et tu sais qu'ils y sont pas arrivés et qu'ils ont sans doute très 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 mal terminé, quoi. Et voilà, c'est un docu vraiment que je trouve, enfin, qui est à la fois très drôle et aussi très très triste, hein, donc on revient toujours sur les mêmes trucs. et qui dans lequel il y a quelques scènes un peu cultes, notamment celle de je sais plus son nom, Chris Owen, je crois, c'est ça, le guitariste de Wasp qui
je me rappelle plus des noms de Wasp. Je me rappelle de Wasp, c'est beaucoup mieux.
Alors voilà, le guitariste de Wasp, c'est ça, qui il est interviewé sur un fauteuil gonflable dans sa piscine de nuit, habillé en cuir, et en buvant de la vodka. Il y a sa mère à côté qui dit rien, mais qui est pétrifiée de honte, et lui qui se picole la gueule à la vodka, c'est... en répondant n'importe quoi.
C'est épouvantable.
Et à la fin, il fait un collapse dans la piscine. Ouais. Enfin, c'est que des scènes comme ça, c'est assez assez violent comme docu. Et voilà. Et sinon, vite fait, il y a un docu de Martin Scorsese sur Dylan qui sort le 12 juin sur Netflix, qui sera un truc un peu plus sérieux, un peu plus qu'on pourra un peu parler un peu plus dans les soirées mondaines que The Dirt, mais qui risque d'être hyper cool. Voilà.
Très bien, Julie.
Je suis pas allée chercher bien loin, je t'avoue, mais je m'autorise un joker vu que ça fait pas longtemps que je suis là.
Très bien.
Moi, ma recommandation, c'est Spinal Tap, en fait.
Ah oui.
Oui, qui est un très bon film que beaucoup de gens ont vu, donc c'est pas une grande découverte. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un faux documentaire sur un groupe de heavy metal qui parodie tous les gros poncifs des biopics musicaux. Et donc où on suit un groupe en tournée où il se passe tout un tas de trucs complètement absurdes, les batteurs qui meurent dans des circonstances étranges, donc soit étouffés par le vomi de quelqu'un d'autre, soit dans des combustions spontanées. Et le truc qui est assez intéressant avec ce film, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de musiciens, en fait, qui ont trouvé une certaine résonance avec leur propre parcours, quoi. Genre, Ozzy Osbourne, les Misfits, ou Led Zeppelin, se sont tous reconnus là-dedans, ont tous reconnu un moment de leur carrière là-dedans. Et genre, il y a même, j'avais lu un truc comme quoi Steven Tyler était persuadé qu'il n'y avait pas d'humour, que c'était un vrai film, quoi. Sur un vrai groupe. Donc, je sais pas si ça dit que Steven Tyler est un peu bête.
C'est peut-être instructif plus sur
que
Steven
le film
Tyler
est vraiment bien fait, mais ouais, allez voir ce film, donc de Rob Reiner. Enfin, allez voir. Chopez-le, quoi.
Chopez-le. Il est sorti dans des très belles éditions en forme d'ampli, où il y avait même les potards qui bougent et tout. Il y avait il y a des choses très très belles qui se sont faites. Périne.
Moi, c'est parce que ce qui m'a intéressé, c'est que dans le film, plusieurs fois, on pète le quatrième mur. Ouais. On s'adresse directement au spectateur. Et donc, j'ai pensé au film qui est sorti en décembre dernier, qui s'appelle L'Eto, de Kirill Srebrennikov, film russe, sur deux groupes, en particulier deux personnalités du rock russe des années 80, les groupes Kino et Tso Park. Donc, il y avait Victor Tsoï et je ne me lancerai pas sur le nom de l'autre. Mike, voilà. Et je me lancerai pas.
Mike, voilà.
Non, mais voilà. Mais en fait, c'est un film en noir et blanc sur justement ce rock dans une URSS particulièrement répressive, assez difficile, où on fait les concerts de rock encadrés avec des gens et on n'a pas le droit de se lever, on est assis et on applaudit quand on nous dit d'applaudir. Donc c'est une autre façon de vivre le rock. Mais c'est surtout, on raconte une époque, on raconte justement ce vent de liberté qui arrive en Russie, qui va mener après, donc notamment, enfin c'est pas ça qui va mener à la chute du mur de Berlin, ni à la séparation du bloc de l'Est, mais en tout cas on sent déjà cette jeunesse qui a besoin de liberté, qui a besoin de casser les murs et d'exister. Et plusieurs fois dans le film, on a un personnage qui n'existe pas, qui traverse le film comme ça, plus ou moins, qui accompagne le groupe, tel une sorte de groupie, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Mais souvent, il se retourne vers nous et il nous dit « ceci n'a pas existé, cette scène n'a pas existé ». Et donc, le film est complètement un petit peu fou, un peu hyper poétique, hyper touchant, et en même temps, rock'n'roll dans l'âme de ce qu'est le rock'n'roll, c'est-à-dire cette espèce de liberté, de la jeunesse, de cri de la jeunesse. Et je trouve que c'est un très très grand film de Kirill Srebrennikov qui, à l'époque où il l'a fait, était enfermé chez lui en Russie. Il était accusé de détournement de fonds. C'était une raison un peu à côté de la plaque en réalité, parce qu'il a dit des choses contre le régime. Donc il était enfermé chez lui et maintenant il vient d'être libéré, mais il n'a toujours pas le droit de sortir du pays. Mais voilà, donc c'est un film qui hurle liberté de la part d'un mec qui était enfermé, et je trouve que c'est un grand film.
Très bien, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, merci à Quentin La Technique, à Juliette pour la préparation, binge.audio pour toutes les infos utiles, et puis on vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Binge. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.